Vous êtes à l'écoute des mots avec Bertrand Coudreau.
On a l'habitude depuis l'origine de notre émission de présenter régulièrement une librairie, le plus souvent Mancelle, malheureusement. Et nous avions déjà fait une exception en 2019 à Mamers. Il est temps d'en faire une autre aujourd'hui, plusieurs années après, en vous présentant L'âme du 5, une des plus anciennes librairies de la Sarthe, probablement. Nadine Engehard. Alors.
Engehard.
Alors voilà, c'est exactement la question que j'allais poser. On prononce Engehard, on voilà. Prononce pas le D. Très bien. Ça, c'était la première question que je voulais poser parce que effectivement, j'avais un doute. Voilà, ça c'est réglé. Juste une chose, c'est un nom qui a une origine particulière, non?
C'est nordique, voilà quoi.
D'accord. Pays du Nord. Alors, je disais tout à l'heure que L'âme du 5 est probablement une des plus anciennes librairies de la Sarthe, mais en fait, ces lieux ont d'abord été une imprimerie.
Voilà. En fait, le magasin tel qu'il est, donc la rangée de bâtiments à Écomois, à côté de l'église, comme ça, c'est une construction qui date de 1852, de mémoire, puisque l'église a été refaite à ce moment-là, donc je pense que les bâtiments ont été refaits à ce moment-là aussi. Et historiquement, ici, aux 5 places de la République, c'était une imprimerie. Et juste à côté, aux 4, il y avait effectivement... une librairie Ciergerie.
Ciergerie, ah oui.
Oui, et je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans l'entre-deux-guerres et pendant la guerre, ça j'avoue que je ne sais pas. Par contre, dans les années 70, c'est devenu du coup une presse.
Maison de la presse. On appelle ça comme ça aujourd'hui, mais...
Bref, je ne sais pas si c'était maison de la presse à cette époque-là, mais en tout cas, c'était une presse avec l'imprimerie. C'était même un dépositaire de presse, puisqu'à l'époque, les magasins, ceux qui tenaient les magasins allaient chercher la presse à la gare et la distribuaient auprès des différents... Enfin, ils étaient dépositaires, en fait, ici, d'accord? Et donc, ils distribuaient la presse auprès des différents magasins. Après, donc, c'est devenu... L'imprimerie est partie, c'est devenu donc une librairie, papeterie, librairie, papeterie, presse, voilà, c'est ça. Et dans les années 80, clairement, maison de la presse, 90 aussi, et puis je suis arrivée en 2001.
2001, ça fait déjà
20 ans.
20 ans.
J'ai fêté mes 20 ans ici en début d'année, oui.
En début d'année 2021, bah oui, logique,
voilà,
c'est
voilà,
logique.
Voilà.
Donc on disait aux alentours de 1900 et quelques, vraiment,
1906.
Il y a eu... 1906, c'est ça, que ça a été une librairie, non.
À l'époque, c'était une imprimerie.
C'était une imprimerie. Donc ça a été maison de la presse, papeterie, on a dit. J'ai vu aussi sur le site marché scolaire. Bon, ça a été assez longtemps, j'imagine, comment appeler ça, la tête de gondole, en quelque sorte, des lieux.
Non.
Mais en fait, la librairie, elle est arrivée vraiment en même temps, parce que manifestement, on sent que chez Nadine, l'amour du livre a pris le dessus très rapidement, quoi. Hein.
Alors, dans les années 80, il y avait quelqu'un qui tenait le magasin, qui a dû rester là une dizaine d'années, et ce monsieur, c'était le libraire par excellence. Donc l'entité librairie est très importante bien avant moi, en fait.
Ah, je pensais que c'était...
Ah non, c'était déjà bien existant avant moi. Et tout à l'heure, tu parlais de scolaire. Ça, c'est par contre, c'est moi, ça, c'est mon œuvre.
Certain, c'est que j'imagine que la librairie a pris de plus en plus d'importance quand même.
Exactement, parce que moi quand je suis arrivée en 2001, c'était la presse qui dominait au niveau de l'activité
largement.
Du magasin. Ah oui, très très largement, puisque le 52% de l'activité c'était de la presse. Mais c'était ça les années 90.
C'est logique en fait.
Début des années 2000, c'était ça. Et puis ben, Internet est devenu de plus en plus présent dans la vie de chacun. Et gros changement, quand on regarde bien, c'est pas si vieux. L'Internet dans sa poche, il n'y a jamais qu'à peine 20 ans.
Oui, effectivement, c'est vrai.
Voilà. Ouais. Et là, j'ai vu l'évolution se faire et progressivement la presse perdre de l'activité. Donc il a fallu trouver d'autres créneaux pour pouvoir continuer à travailler, et d'où mon intérêt pour les écoles. J'ai commencé par une, par deux, par trois, et puis aujourd'hui, ben voilà, il y a une bonne implantation au niveau du Bélinois, quoi.
On peut peut-être d'ailleurs expliquer un petit peu techniquement l'originalité du système. C'est un système où les parents d'élèves peuvent quasiment, je sais pas comment dire ça, moi, prendre une espèce d'abonnement qui permet de se fournir de façon pratique. Alors, c'est assez original, ça. J'ai pas le souvenir d'avoir vu ça quelque part ailleurs, mais bon.
L'originalité, c'est qu'au départ, quand j'ai commencé à travailler le scolaire, je travaillais beaucoup avec les écoles, mais fournir les écoles directement. Et puis, donc, Sandra, qui était apprentie à cette époque-là, souhaitait continuer au magasin, mais il fallait un projet, comment dire, abouti, et mettre en place un site internet. Et on avait déjà, depuis quelques mois, on se disait, ça serait bien qu'on propose le kit scolaire. On a déjà entendu parler de ça ailleurs, c'est pas quelque chose d'original en soi. Tel que nous l'avons fait, oui, c'est original. Mais il y a d'autres grandes enseignes qui le proposent. Faire des kits, puisque c'est quelque chose qui est demandé par les collèges notamment. Et donc on a créé notre site. Les parents retrouvent la liste demandée par l'école telle qu'elle est demandée. Le panier est pré-rempli et ils n'ont plus qu'à sélectionner, valider ou ajouter ou défaire. Mais le panier est prêt.
C'est le principe du panier de légumes.
C'est ça.
Mais sauf que là, adapté au matériel scolaire.
Voilà, c'est ça.
C'est quand même assez original.
C'est original, merci.
Et oui, je trouve. Enfin, ouais. Et depuis quelque temps, est venu s'ajouter quelque chose qui m'a surpris, mais agréablement, parce que je suis amoureux des pierres. Mais dans un domaine particulier, la lithothérapie.
Oui, c'est le nom scientifique.
Ou les soins par les minéraux. D'où vous vient cette passion? Elle est aussi forte que la passion des livres, ou c'est équivalent?
C'est équivalent. Après les minéraux, comment c'est venu? En 2013, j'ai eu un accident de la vie assez qui m'a, on va dire, remis les idées en place. C'est douloureux, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc une grosse remise en question, et que faire pour continuer l'activité? Tout ce qui nous arrive a son lot de désagréables, mais aussi d'agréables et de remises en question. En tout cas, pour moi, c'était une grosse remise en question. Et j'ai eu envie d'apporter quelque chose qui apporte du bien. Donc déjà, à moi, ça m'a fait énormément de bien. Et puis, le succès est là aujourd'hui. Donc, les pierres m'ont parlé, on va dire ça comme ça. C'est toujours un peu bizarre de dire ça, mais qui sommes-nous réellement, sinon des êtres vivants qui appartenons à une matière vivante, la Terre?
Les pierres font partie de notre vie,
de notre planète,
avec les arbres, avec les animaux.
Voilà. Et en fait, le minéral est la source de tout le vivant.
C'est ça.
Petite phrase que mon formateur, parce que j'ai fait une formation assez pointue sur les minéraux, qui est une formation intégrative dans le sens où il y a la partie scientifique, donc mesurable, vérifiable et puis quantifiable, mais il y a aussi la partie intuitive qui, elle, est propre à chacun. Et ça, on ne peut pas faire de la science avec ça, parce que chacun ne va pas réagir de la même façon, quoi. Mais lui, son truc, c'est de nous dire très simplement, le minéral est la source de tout le vivant. Et c'est vrai.
C'est parfaitement exact. La planète, avant d'être habitée, elle était minérale.
Minérale avant tout.
Essentiellement.
Hein. Et du minéral, il y en a dans les plantes, il y en a dans les animaux. Nous en avons.
Nous sommes remplis de minéraux sans le savoir.
On est bien d'accord. On est capable d'accepter de se dire, bah tiens, on est fatigué, on a un coup de fatigue, il faudrait qu'on fasse une petite cure d'oligo-éléments, une petite cure minérale. On l'accepte dès l'instant qu'on l'ingurgite. Alors, pourquoi pas accepter qu'une pierre dans la poche peut soulager, autour du cou, peut apporter du bien-être. Les pierres sont des compagnes, en fait. J'insiste sur le mot, ce sont des compagnes. Exactement.
Alors, en dehors de toute considération médicale, il y a aussi cet aspect-là. Alors, est-ce que, par exemple, il y a aussi des tout simplement des amateurs de pierres, des collectionneurs de pierres, qui viennent vous acheter des pierres uniquement pour ça.
Ah mais totalement.
Pour le plaisir de dire, oh, tiens, cette pierre-là, je ne l'ai pas dans ma collection.
C'est ça, voilà. Mais c'est exactement
c'est
ça.
Ce n'est pas forcément un caractère...
Mais chacun fait comme il a envie de faire. Et puis, tu l'as dit assez justement, je suis devant ma vitrine, je suis en admiration. Les pierres ont la vertu de nous ramener dans l'instant présent, donc de nous relier à nous-mêmes, et quelque part, d'oublier le côté parfois empoisonnant du petit vélo qui est dans la tête, qui est en toujours en train de tourner, quoi. Là, on se pose parce que c'est beau, parce que oui, elle nous amène à la contemplation.
Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, dans les malheurs de la vie, on a souvent une espèce des choses qui arrivent, qui finalement nous boostent pour tourner une page,
c'est ça.
Ou pour s'élancer, faire autre chose de positif pour compenser, quoi.
C'est parfois
la douleur.
Des petites claques qui sont nécessaires pour se remettre en cause, des petites claques qui sont nécessaires pour se dire finalement t'es peut-être pas sur la bonne voie, peut-être qu'il faut changer.
Remettre les pendules à l'heure,
voilà, c'est
dans
ça.
Le bon sens,
ouais. Alors, c'est sûr
sur les bons rails.
C'est sûr que c'est plutôt très, par contre c'est sûr, c'est très original. Je pense que je suis unique en France à avoir une librairie, papeterie, presse et minéraux. On se dit, tiens, pourquoi des minéraux dans une papeterie? Pourquoi des minéraux dans une presse? On voit des minéraux avec de la librairie, c'est certain. Après, quand j'ai commencé, j'ai commencé tout petit, hein. Je ne savais pas comment ça fonctionnerait.
Oui, il faut tester d'abord.
Ah voilà, j'ai commencé vraiment tout petit, et puis...
Et ça prend de l'ampleur.
Et oui, et puis aujourd'hui, quand je regarde en 2014, quand j'ai commencé à les installer, quand je vois aujourd'hui la taille du rayon, je me dis, ah oui, quand même.
Et c'est plaisant, en plus.
Voilà, ouais, c'est ouais. Ça.
Et c'est agréable aussi pour les gens qui passent dans la rue, de regarder tout simplement à la vitrine.
Voilà, c'est ça, c'est plaisant.
C'est agréable de toute façon.
Ouais,
voilà.
ouais.
Ne serait-ce qu'à regarder.
Participe passé, participe passé, 4 et 4 font 8, 4 et 4 font 8, leçon de français, leçon de français. De mathématiques, que de, travail, sacré Charlemagne. Car sans lui dans notre vie, il n'y aurait que les jeudis. Car sans lui dans notre vie, il n'y aurait que des jeudis. Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh.
À l'écoute des mots sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com.
Maintenant, on va revenir au livre parce que l'émission s'appelle À l'écoute des mots, donc c'est une émission littéraire. Donc
aussi
on va y revenir, mais bon, c'est sympa aussi d'avoir des parenthèses comme ça, c'est sympa. Il y a quelques années, vous avez eu le courage, je dirais, de vous lancer seul dans une aventure qui demande quand même, en général, beaucoup d'énergie, c'est-à-dire la mise en place d'un salon littéraire. C'était quand même osé pour une petite ville comme et comme moi, non ?
Quand je suis arrivée en 2001, il y avait déjà quelque chose qui existait. C'était sur le marché, il y avait le marché de Noël qui se mettait en place, peut-être l'année d'avant ou l'année encore d'avant, je ne me rappelle plus très très bien.
Qui est en train de s'installer là d'ailleurs.
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc la toute première année, je me souviens, j'avais reçu, je ne sais plus, 4 ou 5 auteurs sur le marché, donc dans le froid, enfin bon bref. Et j'en discute avec le maire et le maire me dit, écoute, ça peut être bien si tu faisais un salon dans l'ancienne mairie, tu reçois une vingtaine d'auteurs. Et,
en même temps que le marché de Noël.
Voilà, c'est ça. Et sur le coup, je me suis dit oui, pourquoi pas. Et donc j'ai commencé, on va dire, dans le suivi du marché de Noël. Jusqu'au jour où les rencontres font que ça prend un petit peu plus d'ampleur. Des rencontres que j'ai fait à la 25e heure, des rencontres que j'ai fait aussi avec des journalistes. Et j'ai osé un peu plus la pub, j'ai osé un peu plus la diversité. Et le succès était là. Et jusqu'au jour où on m'a dit, écoute, là, il est peut-être temps de passer à autre chose. Donc je suis allée à la salle polyvalente en 2019. Bon, par contre, 2020, on sait pourquoi il n'y a pas eu d'édition.
Le coronavirus est passé par là.
Voilà, et puis 2021, j'étais pas tout à fait en phase avec le fait de refaire un salon à cette période de l'année. Je me suis dit, il y a encore un risque important. Et j'ai dit, on va proposer une autre formule. Je me suis dit, on va faire 3 auteurs le matin, 3 auteurs l'après-midi sur 3 week-ends. Je pense que j'ai bien fait, parce que si j'avais gardé le salon, je suis pas certaine que j'aurais pu le maintenir.
Et puis, il y a l'aspect financier, il faut le dire.
Et il y a l'aspect financier.
C'est pas évident. Disons que le Covid a été un élément déclencheur.
De réflexion. C'est
de réflexion, oui. Et puis aussi, c'était pas évident de redémarrer. Il y a eu plein d'institutions de commerce qui ont eu du mal à redémarrer. Certains n'ont même pas redémarré du tout, d'ailleurs. Donc là, c'était un peu le même problème. C'est tout à coup, si j'ai pas de soutien véritable, c'est ça compte aussi. Hein. Si on
c'est
se sent soutenu, ça aide.
Ben, bien sûr. Et puis bon, ben, vu le contexte actuel, là, si on parle de là maintenant, j'aurais dit, bon, ben, je fais un salon. Vu le contexte, est-ce que les auteurs seraient venus? Première question. Deuxième question, est-ce que les lecteurs seraient venus?
Pas
donc
sûr.
Ça fait trop de
questions.
Trop de questions. Et un matin, en me réveillant, je me suis dit, mais ça y est, la solution, je l'ai. Et je reçois les auteurs au magasin.
Et donc voilà, c'est ce que vous privilégiez cette année pour la première fois.
Oui.
Les séances de dédicaces. Et vous faites ça sur tout le mois de décembre, hein,
trois samedis avant Noël.
Avant Noël, et vous accueillez combien d'auteurs à chaque fois?
Trois auteurs le matin, trois auteurs l'après-midi.
Trois le matin, trois l'après-midi.
Ouais.
Ce qui fait que c'est quand même pas mal, parce que ça fait quand même six auteurs à chaque fois. Trois fois, six fois trois, 18, bah c'est quand même...
Pas si mal.
C'est pas un salon, mais...
Non.
Mais au moins, on est dans...
Et puis le dimanche, deux maisons d'édition.
Ah, il y a ça aussi, il y a les maisons d'édition.
Deux maisons d'édition. Alors, j'aurais pu faire trois le matin, trois l'après-midi, mais je me suis dit, après tout, c'est l'occasion de recevoir des maisons d'édition. L'avantage, c'est qu'elles ont quand même un certain nombre de livres. Et quand je leur ai proposé, elles m'ont dit, oui, pas de problème, on vient toute la journée. Ça vaut le coup pour elles de venir la journée. Parce qu'une maison d'édition, bon, bah... Il y a quand même, je pense aux éditions Adabam, à un moment donné, il y a quand même un certain nombre de titres, donc venir qu'une matinée, je ne suis pas certaine que ce soit valable pour elle. Quoi.
Moi je vis parmi les bouquins et je les vends à tout le monde, aux châtains, aux bruns, aux requins, aux filles brunes, aux femmes blondes, aux hommes des romans d'amour, aux femmes des nouvelles tristes, aux enfants des livres de mots où les magiciennes existent. Je vends des fictions, des rêves, des histoires vraies, des reportages, des essais et des témoignages, des romans longs, des nouvelles brèves. J'aide les amants à choisir.
Je crois avoir compris que, en fait, vous privilégiez plutôt des auteurs régionaux.
Ah, totalement.
Totalement. Ça, c'est un côté sympathique pour les Sartois et même pour les départements du alentour, après tout.
Oui, parce
que je viens d'entendre un nom d'éditeur, c'est pas forcément des éditeurs forcément Sartois.
Alors,
il y en a, j'imagine.
Oui, Adaba, mais sartoise. Par contre, l'autre maison d'édition, elle est nantaise.
Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ce que je voulais dire, c'est que ce sont surtout des maisons d'édition qui sont des petites maisons d'édition, souvent, mais qui font des choses originales. Et souvent, elles sont un peu occultées. À la 25e heure, c'était un peu une politique qui était menée d'inviter un peu tout le monde. Mais là, on a vu que le salon Faites Lire a plutôt privilégié le vedettarien, entre guillemets. Et là, c'est sympa que des petites villes de la Sarthe, quand même, enfin moi je le dis, là c'est une opinion un peu personnelle, ouvre la porte quand même à des petites maisons d'édition qui sont pas forcément de la région. Il y en a à Paris aussi, des petites maisons d'édition, mais qui font des choses originales, intéressantes, et de le faire savoir.
C'est ça, et en fait on a tous des talents formidables autour de nous, et il y a des valeurs, comment dire, certaines personnes qui sont sartoises, qui sont reconnues, comme là la semaine dernière, je recevais Fernand Lejar samedi après-midi, il y avait des gens qui attendaient dès 14h30 devant le magasin pour voir Fernand. Pourquoi il est pas, si on dit Fernand Lejar, comment
comme
dire,
ça, aux auditeurs,
voilà,
ça leur dit pas forcément,
dit pas forcément
grand chose, alors
chose.
Bah, profitons-en pour dire qui il est.
Mais Fernand Lejar, c'est un patoisan qui a écrit notamment « Et si on causait patois ?» Et son dernier bouquin, c'est « Peau de vache ». Donc il raconte son enfance de jeune enfant qui ne savait parler que le patois, parce que dans la campagne on parlait comme ça, et il raconte ses souvenirs. Voilà, c'est drôle, c'est émouvant aussi, et puis c'est un mélange de sartois et de français, donc c'est très sympa parce que du coup vous vous mettez à parler en patois.
C'est pas lui qui fait une petite chronique sur NMTV
si,
aussi
si,
ouais, c'est
si,
lui,
si,
ah, bah,
oui,
je vois très bien
lui.
Qui c'est.
Ouais, oui, ouais. C'est lui. Et lui justement, bah, je l'ai rencontré là-bas, à LMTV.
À LMTV,
voilà,
ouais,
bah, on a discuté et il m'a dit bah, je sors un livre, bah, je lui ai dit vous viendrez, il m'a dit bah, bien sûr.
Ah oui, avec, Michel, avec Serge Bertin, je crois que c'est les deux piliers du patois
bah,
sartois.
C'est ça, et puis c'est les piliers des auteurs sartois connus.
Ah ben, l'ami Serge, avec un livre magnifique sur
Le
Mans.
Il est trop beau.
J'ai déjà fait une émission avec lui sur son livre et sur sa carrière, parce que lui, c'est toute une vie magnifique. Mais vraiment, je le redis là à l'antenne, franchement, son livre sur Le Mans, il a trouvé un photographe que je ne connaissais pas,
ouais,
qui
magnifique.
Est absolument fabuleux, ce photographe. C'est un livre, je crois que j'ai jamais vu un livre aussi beau sur Le Mans. Franchement, voilà, la pub est faite. Alors, on va finir là-dessus. Maintenant, comment vous voyez l'avenir ? Parce que, bon, cette année, c'est un peu une expérience. Comment vous percevez ça un petit peu par rapport au livre ? Est-ce que vous pensez que l'orientation, ce sera celle-là maintenant pour pas mal de temps ? Celle qui a été choisie ou...
Je pense que c'est prématuré de
Je vais un peu vite.
Ouais, de vouloir dire qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine. Je ne sais pas. C'est simple, je ne sais pas.
Bon, alors comme ça, c'est clair.
Voilà. Après, j'ai envie de dire, si cette expérience est convaincante et que l'année prochaine, malheureusement,
pour X
ce
raisons.
Soit encore compliqué, eh bien, c'est une formule intermédiaire qui permet de satisfaire la curiosité.
C'est plus souple. C'est plus souple qu'un salon.
C'est ça.
Un salon, on ne peut pas l'annuler comme ça. On peut
non,
pas le...
voilà.
Alors que là, on peut s'adapter.
On peut s'adapter et puis on répond quand même à la satisfaction des clients. L'année dernière, j'ai des tas de clients qui m'ont dit « Ouais, te rends compte, fais pas ton salon !» Ben oui, mais en même temps, je peux pas trop et un petit peu... enfin, déçu, franchement déçu. Donc là, je leur ai dit « Ben, je ferai pas de salon, mais ce sera sur 3 dates au magasin. » Ah ben voilà ! Et on sentait la satisfaction parce que je proposais quelque chose.
Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Une dernière question. Au Mans, on a des grandes librairies connues qui vendent des livres à une population urbaine. Est-ce qu'il y a en milieu rural des livres qui ressortent plus facilement dans la population rurale ? Je ne sais pas. Une petite commune, une petite ville comme Écommoy, est-ce que les lecteurs sont un peu différents ou finalement ils ressemblent tout à fait aux autres ? La
Alors,
question est peut-être incongrue, je ne sais pas.
Non, pas du tout. Comment je classe, par exemple, il y a les meilleures ventes, comment je les classe ? Je les classe par rapport aux meilleures ventes de livres hebdo. Et je constate que par rapport à ce classement, pour moi, c'est pareil, c'est les mêmes. Donc, désolé pour le sartois, mais si c'est Musso qui vient de sortir un bouquin et qui fait partie des meilleures ventes, bah, ce sera Musso qui se vendra ici aussi.
Ouais, voilà, il n'y a pas, voilà. Y a pas une différence,
non.
Franchement, avec,
voilà.
Avec
Après,
les grandes villes.
Voilà, ici, par exemple, Jérôme Fourquet qui est venu en conférence.
Ah ben, Jérôme, c'est un sartois en plus.
Bah, c'est ça. Il vient, donc, son dernier livre, La France sous nos yeux, il y a un attachement peut-être un petit peu plus important, mais je suis convaincue qu'au Mans, il se vend de la même façon. La différence qu'il peut y avoir avec la ville, peut-être que les gens sont un petit peu plus attachés à leur territoire. Peut-être.
Oui, aux livres qui parlent de leur d'Écommoy, par exemple, de la région.
De toute façon, quelqu'un qui lit, on ne lui demande pas s'il est rural ou s'il est citadin.
C'est un lecteur.
C'est un lecteur, voilà. C'est aussi simple que ça.
C'est aussi simple que ça.
Donc, vouloir les mettre dans des cases.
Eh ben merci Nadine, je vous libère parce qu'on est un samedi,
oui.
Et le samedi il y a beaucoup de monde dans la librairie, donc il faut que je vous laisse travailler.
Merci
et puis au plaisir de se revoir à une autre occasion.
Avec plaisir.
Bien, nous voilà à la fin de cette émission. Si vous passez par Écommoy, allez dire un petit bonjour à Nadine, achetez-lui un livre, un journal, mais aussi peut-être une ou deux pierres, parce que ça c'est vraiment intéressant chez elle. Eh bien écoutez, on se retrouve maintenant dans 15 jours pour une autre émission avec un autre invité. Voilà, au revoir.